des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Le guide de l'auto. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer.
Germain, je m'étais laissé cette semaine le Volkswagen Taos que tu as pu rouler toi aussi pour découvrir que Volkswagen fesse dans le mille, comme on dit carrément oui. En bon français.
On a frappé dans le bullseye.
Oui, exactement. Ça m'a donné l'occasion de croiser Pierre Boutin, qui est PDG de Volkswagen Canada et qui avait une opinion assez intéressante sur le futur de la marque Volkswagen et la direction qu'on va prendre dans les prochaines années avec un virage électrique. C'est pourquoi on l'a invité ce matin. Alors, M. Boutin est avec nous. Bonjour, bonjour Pierre.
Bonjour.
Bonjour, messieurs. Merci de cette invitation.
Avec grand plaisir. D'abord, je veux parler d'électrification avec vous parce que, bien sûr, vous arrivez avec un premier véhicule électrique cette année. Pas un premier parce que, évidemment, vous avez aussi eu la e-Golf. Alors, peut-être que la première question, c'est, après 5 ans de commercialisation d'une e-Golf, quelle leçon on tire de cette voiture-là et qu'ont appris les concessionnaires et comment ils se sont adaptés à cette nouvelle réalité?
C'est une très bonne question parce que, vous savez, ce sont des changements majeurs non seulement dans la façon dont on construit les véhicules, mais de façon tout aussi importante, comment on les commercialise. Il y a beaucoup de formation, il y a beaucoup de nouveaux outillages. Il y a toute la question de la sécurité aussi qu'il faut faire attention à comment traiter les batteries et tout ça. Il y a des investissements aussi conséquents qui sont importants du point de vue des charging stations, dans le fond, les bornes de recharge dans les concessions automobiles et tout ça. Donc, c'est pas quelque chose qui arrive à l'intérieur d'un trimestre ou deux. C'est une stratégie qui doit s'établir sur plusieurs mois, sur plusieurs années. Et aujourd'hui, on a appris beaucoup justement du lancement de la e-Golf. On a lancé notre toute nouvelle ligne de véhicules ID, l'ID4, qui arrivera d'ailleurs au Canada. Et il y aura plusieurs autres véhicules qui suivront par la suite.
Est-ce qu'on est satisfait de l'expérience e-Golf ou on l'a vu un peu comme un ballon d'essai avec lequel on pouvait s'ajuster là?
On est très satisfaits, vous savez, du point de vue de la qualité du véhicule, les gens sont très satisfaits du véhicule. Et encore aujourd'hui, on voit aussi que la longévité de la batterie, vous savez, où les premiers véhicules électriques, on avait tous des doutes de dire, bon, est-ce que justement on va pouvoir avoir une batterie qui va tenir la route dans 2, 3, 4, 5 ans? On a parlé aussi des fameux hivers québécois, est-ce que ça va fonctionner dans une température très basse? Donc, c'est sûr qu'on a appris tout ça, la technologie est passée à un nouveau niveau. Parce que ce qu'on a fait avec la e-Golf, dans le fond, c'est qu'on a mis un battery pack, dans le fond, un ensemble de batteries sur un véhicule qui avait été conçu pour un moteur thermique. Et maintenant, avec la ligne ID4, c'est qu'on a construit une toute nouvelle plateforme entièrement dédiée aux véhicules électriques, justement pour arriver à maximiser l'efficacité énergétique du véhicule, le confort, etc., etc.
Évidemment, l'approche avec la e-Golf diffère complètement de celle que vous allez faire avec votre gamme ID, dans la mesure où fallait pratiquement être un connaisseur pour savoir que la voiture qu'on croisait sur la route était une voiture électrique. La Golf, c'était le pouls de la marque Volkswagen. Les gens reconnaissaient ce modèle-là instantanément, mais ne savaient pas nécessairement que c'était une voiture électrique, autre que si tu connaissais le design des jantes et
Et qu'elle ne faisait pas de bruit.
Oui, c'est ça. Alors, est-ce que d'avoir intégré le marché de la voiture électrique avec une voiture qui n'avait pas l'air d'une voiture électrique, bien, ça a été bon pour vous? Est-ce que ça a contribué à ce tremplin-là que vous avez franchi?
Oh, absolument, parce qu'il y a tout l'aspect technologique qu'on apprend aussi. On a à conduire des millions de kilomètres avec des véhicules, on obtient énormément d'informations. Donc, et je dois dire la chose suivante, c'est que lorsqu'on est arrivé avec la e-Golf, c'était un modèle parmi tant d'autres. Tandis que quand on arrive avec notre stratégie d'électrification, la gamme de modèle ID4, et bon, on a ID3 en Europe, on va à ID5, ID6, etc., c'est une stratégie industrielle et de commercialisation. C'est un changement parce que chez Volkswagen, bon, on connaît bien notre passé, on était le premier à signer pour l'entente, ou du moins à être engagé envers les objectifs de l'entente de Paris du climat dans le fond. On est très engagé sur la réduction de notre empreinte de carbone à tous les niveaux, que ce soit évidemment de par les motorisations qu'on a, de par les véhicules, mais aussi la fabrication, dans tout ce que l'on fait dans le fond. Et on a un plan pour les prochaines années, pour nous amener justement à réduire notre empreinte de carbone dans l'ensemble des opérations du groupe Volkswagen.
Histoire de faire un peu oublier une certaine saga dont on a déjà parlé maintes et maintes reprises. Dites-nous, M. Boutin, avec l'ID4, quelle stratégie on va adopter? Parce que, au Canada, avec beaucoup de véhicules hybrides rechargeables et même avec des véhicules électriques pour lesquels la demande est parfois plus forte que l'offre, on va privilégier certains marchés, dont le Québec et la Colombie-Britannique, en raison des subventions locales en plus de celles qui sont fédérales. Est-ce qu'on va aller dans cette direction-là avec l'ID4 ou on va avoir une offre qui va s'étendre là, d'un océan à l'autre?
C'est une bonne question. Dans un premier temps, je vais revenir sur un de vos commentaires. C'est pas le fait de faire oublier le passé. Vous savez, Volkswagen aujourd'hui a pris un leadership dans l'électrification de sa gamme. C'est basé aussi sur l'expérience qu'on a eue par le passé, sur les erreurs qu'on a fait. Et justement, on est une entreprise beaucoup plus forte aujourd'hui parce qu'il y a une remise en question totale de l'entreprise après évidemment les événements qu'on connaît tous. Maintenant, justement, on a pris la direction d'arriver à être un leader mondial dans l'électrification. Et pour nous, donc, ça arrive à être une plateforme, évidemment. C'est tout l'outil industriel, parce qu'il y a un ensemble de fournisseurs qui doivent y arriver. Écoutez, on investit même dans certaines entreprises aujourd'hui pour s'assurer d'obtenir les métaux précieux qu'on doit avoir pour construire ces batteries. On a même une stratégie du point de vue du réseau de recharge, puisqu'on est actionnaire dans Electrify Canada, Electrify America. Ouais. On a 10 000 bornes de recharge partout à travers l'Amérique du Nord. Et justement, d'un océan à l'autre, d'ici les 2 à 3 prochaines années. Maintenant, justement, pour nous, c'est sûr qu'à court terme, vous savez, un outil industriel, ça doit se construire, ça doit se bâtir, ça prend un certain moment. On est en pleine construction, justement, d'une usine en Amérique du Nord pour arriver à construire nos véhicules directement, des véhicules électriques directement de l'Amérique du Nord. Puisqu'aujourd'hui, l'ID4, les premiers ID4 qui arriveront au Canada seront construits en Allemagne. Donc, on a qu'une seule usine, on en aura 6 à travers le monde d'ici environ 12 à 18 mois qui seront dédiées uniquement à l'assemblage des véhicules électriques. Donc, c'est une stratégie avec tout ça industriel et aussi une stratégie d'une gamme de produits. On a annoncé l'ID4. Pourquoi l'ID4? Vous savez, au Canada, 85% des véhicules qui sont vendus, ce sont des camions et des vues. Le véhicule le plus vendu au Canada, ce sont des vues, dans le fond, c'est la part du lion. Ouais. Donc, quand on regarde l'ID4, on tombe justement dans le mille. On arrive avec un véhicule électrique, ce que les gens, dans le fond, veulent arriver à essayer, veulent arriver à s'acclimater avec l'électrification. Mais en même temps aussi, on ne veut pas perdre tout l'aspect de la valeur ajoutée d'un véhicule. Donc, on aime bien nos VUS. Et Volkswagen arrive justement avec ce premier véhicule. Il y en aura d'autres. On a annoncé l'arrivée du Buzz, évidemment, qui est un véhicule mythique chez Volkswagen.
Bien sûr.
Qui fera son entrée aussi au Canada à la fin de 2023, début de 2024. Et vous savez, lorsqu'on aura justement cette usine-là au mois de septembre ou à peu près l'année prochaine, ça nous permettra d'arriver à mettre beaucoup plus de véhicules électriques sur la route et deux, d'élargir notre gamme puisque la plateforme sera unique. C'est une plateforme MQB du groupe Volkswagen.
Je me permets de vous citer un exemple qu'on vit très fortement ici au Québec avec un produit qui s'appelle le Toyota RAV4 Prime. Vous vous présentez chez un concessionnaire demain matin pour mettre la main sur un de ces véhicules-là et vous risquez d'attendre de 18 à 24 mois avant de réussir à mettre la main sur une unité parce que ce véhicule-là est tellement alléchant, notamment en raison des crédits gouvernementaux, qu'il revient pratiquement moins cher que si on achète un RAV4 régulier ou hybride. Et j'analysais un petit peu l'échelle de prix de votre nouveau ID4, qui lui aussi est éligible aux pleins crédits gouvernementaux provincial et national, pour réaliser que si on achète ce véhicule-là, même dans sa version à rouage intégral, eh ben ça revient au même prix, voire même moins cher qu'un Tiguan régulier. Alors c'est évident en ce qui me concerne que
Les formats se comparent.
Ah, les formats se comparent. Alors, c'est évident, en ce qui me concerne, qu'un client va se présenter chez Volkswagen et n'hésitera pas deux minutes à sauter vers le ID4. Maintenant, comme vous me disiez aussi, juste avec le marché de la Norvège, vous seriez en mesure d'avoir un plein rendement de votre usine actuelle, ce qui veut dire que pour vendre ces véhicules-là à l'échelle mondiale, ben ça sera quelques centaines, voire peut-être quelques milliers d'unités maximum pour le marché canadien. Comment est-ce que vous allez faire pour réussir à garder en haleine votre clientèle et ne pas les décourager avec un temps d'attente pour les livraisons qui serait trop long?
Oui, écoutez, on arrive aussi à investir de notre côté pour justement faire nos propres batteries. Comme je vous parlais tout à l'heure, on met même la main sur certaines entreprises pour et travailler en partenariat pour s'assurer qu'on ait les matériaux pour construire ces batteries-là. Parce que c'est évidemment c'est des choses qui n'existaient pas il n'y a pas si longtemps. Donc, arriver à construire tout ça et de le mettre en marché, de une commercialisation massive, ça prend un certain nombre d'années, effectivement. Maintenant, ce qui est très important chez nous, c'est qu'à court terme, comme je vous disais tout à l'heure, c'est que notre production arrive d'une seule usine. Donc, c'est sûr que les prochains mois, ça sera un peu compliqué parce que, d'ailleurs, je peux vous annoncer que, oui, on a beaucoup plus d'offres, de demandes plutôt que d'offres présentement. On ne sera pas capable de faire face à tout ce que la clientèle voudrait avoir au cours des 3 ou 6 prochains mois. Par contre, lorsque notre usine nord-américaine arrivera à construire les véhicules à partir du mois de septembre, octobre, l'année prochaine, c'est à partir de ce moment-là qu'on pourra arriver à augmenter notre production. On aura aussi des fournisseurs locaux, ce qui est très important. Donc, la chaîne d'approvisionnement doit être aussi en dollars canadiens ou en dollars américains, du moins sur le continent, donc beaucoup plus accessible financièrement parlant. Et bien que, évidemment, ce ne sont pas des véhicules qui sont très rentables, on l'aura tous compris avec les milliards d'investissements qu'on doit faire à court terme, le groupe Volkswagen s'engage dans cette direction-là. On sait qu'on aura des économies d'échelle. On sait que la technologie, on travaille aussi sur les deuxième et troisième générations de batteries. Vous savez, aujourd'hui, c'est une batterie au lithium. On travaille sur la batterie dure. On a donc des investissements dans ce sens-là pour arriver à diminuer, encore une fois, le poids du véhicule, pour arriver à diminuer l'empreinte carbone de tout ce que l'on fait, pour arriver à avoir une meilleure efficacité énergétique. Donc, vous allez voir, les gens nous ont souvent posé la question, est-ce que ça va prendre combien de temps? C'est pas nécessairement une question de temps, où le temps est important, mais c'est plutôt une question d'investissement. Et on n'est pas les seuls, parce que quand le groupe Volkswagen arrive, dit, bon, on s'en va dans l'électrique, quand les gouvernements à travers le monde disent, on veut de l'électrique, il y a de plus en plus de fournisseurs, il y a de plus en plus d'investisseurs qui arrivent. Donc, la recherche et le développement, c'est une très bonne chose. Donc, on va y arriver, on peut y arriver. Oui, alors évidemment, il y a une période de transitoire, si on veut, parce que le client est habitué à aller chez son concessionnaire et de voir une panoplie de véhicules, une cinquantaine de véhicules. Bon, je veux tel modèle, telle gamme, telle couleur, telle configuration. Ouais. Et évidemment, on n'est pas dans une situation comme ça encore aujourd'hui. Ça va prendre un certain temps, mais d'ici la fin 2022, début 2023, je sais qu'on saura faire face à la demande définitivement au niveau canadien avec notre gamme ID4, et on est très confiants par rapport à tout ça.
Vous me disiez, lors de l'événement du Taos, un peu plus tôt cette semaine, que c'était du côté de Chattanooga que vous alliez installer de nouvelles usines là, pour la fabrication de véhicules électriques. Est-ce que celle-ci viendrait remplacer celle la section où on fabrique actuellement les Passat, qui sont appelés à disparaître? Parce que vous me disiez aussi que la Passat, après 2022, c'est terminé, là.
Une chaîne de montage de véhicules électriques n'est pas compatible avec une chaîne de montage de véhicules thermiques.
OK, donc c'est différent.
Dans le fond, la production la capacité de production de Passat passera plutôt au Atlas et le Crossport qu'on construit directement.
D'accord.
À Chattanooga. L'extension de l'usine qui est uniquement dédiée, qui est en construction dédiée à l'électrique, fera uniquement que de l'électrique.
OK.
Je comprends que ça peut être difficile des fois de se prononcer sur des véhicules éventuels, mais j'ai pas le choix de vous poser la question quand même. Dans les prochaines semaines, deux constructeurs vont débarquer avec des camionnettes qu'on peut qualifier de nouveaux genres, donc des nouveaux petits pick-up. On parle bien sûr du Ford Maverick et du Hyundai Santa Cruz. Moi, ça me rappelle le salon de l'auto de New York en 2019, où Volkswagen avait quand même fait un pas pire coup d'éclat en présentant le Tarok, qui était une camionnette, disons, nouveau genre également. Est-ce qu'on a des développements de ce côté-là? Est-ce qu'on a toujours l'intention de débarquer avec une camionnette ou on laisse ça carrément aux Américains?
C'est une très bonne question. Vous savez, le plan produit, c'est quelque chose que l'on discute quotidiennement. Donc, il y a toujours des opportunités. Pour y arriver, c'est pas juste d'avoir un produit, il faut arriver aussi avec avoir la capacité de production qui est très importante et avoir aussi l'ensemble des fournisseurs au niveau local pour arriver à nous aider dans ce sens-là. Aujourd'hui, on a déjà une camionnette chez Volkswagen dans certains pays à travers le monde. On est un joueur majeur dans les véhicules, ce qu'on appelle de commerciaux, dans le fond, pour la livraison, pour construction et tout ça. On a une division qui est très importante chez nous, qu'on n'a pas encore amené en Amérique du Nord, pas au Canada, pas aux États-Unis. Ça fait partie, évidemment, de nos pensées pour le futur, de dire, bon, justement, qu'est-ce qu'on va faire du point de vue de commercialisation de véhicules, des véhicules commerciaux, justement. Donc, c'est une possibilité. Et évidemment, avec la plateforme électrique qui pourrait peut-être arriver à nous ouvrir les portes dans ce sens-là, ça devient de plus en plus alléchant. Par contre, ça prend quand même toujours quelques années avant d'arriver, du moment où on dit oui, on y va, et de pouvoir arriver à tout mettre en place. Typiquement, ça prend quand même 2 à 5 ans pour pouvoir y arriver. Donc, mais c'est une possibilité. C'est définitivement une possibilité. Volkswagen, vous savez, on travaille sur avoir une marque qui prendra de l'ampleur, qui va prendre de l'ampleur en Amérique du Nord. Nous sommes très forts en Chine. D'ailleurs, la marque fait plus de 12 à 14 % de part de marché. Le groupe y est très, très présent. D'ailleurs, c'est notre marché le plus important, même avant l'Allemagne. On est très fort aussi. On a une présence très importante en Europe. Et maintenant, ce qui est important, ça nous prend un troisième pilier, c'est l'Amérique du Nord. Et ça a été de longue haleine chez Volkswagen. On a,
ouais,
on a eu des difficultés à travers les années. Et aujourd'hui, je pense qu'on a des éléments qui font en sorte que, justement, on est sur une poussée de croissance. On y fait des investissements. On voit aussi l'intérêt qui est quand même très important, puisque c'est l'élément clé de la stratégie de la marque Volkswagen, c'est l'électrification. Quand on voit où les gouvernements au niveau canadien et québécois s'en vont, où justement même nos collègues américains, le gouvernement Biden est beaucoup plus ouvert dans cette direction. Donc ça ouvre des portes. Et ça, c'est très important. Et ça, ça augure bien, dans le fond, pour la marque Volkswagen en Amérique du Nord.
Je veux vous entendre sur, évidemment, un problème qui touche l'ensemble de l'industrie automobile actuellement, celui des semi-conducteurs, des puces électroniques qui se font manquantes pour l'ensemble de l'industrie. Ça vous touche, vous, peut-être un peu moins que d'autres manufacturiers, mais c'est quand même un problème chez vous. Est-ce que vous le considérez comme un problème et est-ce que vous considérez aussi que une fabrication plus locale de ces pièces-là vous permettrait de, justement, vous garantir un avenir plus sécure à ce niveau-là?
Oh, c'est définitivement un très gros problème. C'est l'approvisionnement, la COVID nous a apporté bien des défis, comme on le sait tous.
Ouais.
D'un point de vue manufacturier, que ce soit dans l'automobile ou même dans tous les secteurs, on n'est pas encore revenu sur une vitesse de croisière. Et en même temps, il y a tout cet élément-là qui est difficile. Le post-COVID, parce que les fournisseurs à travers le monde ont encore quand même plusieurs difficultés d'approvisionnement,
ouais,
à tous les niveaux. On fait face aussi, on parle beaucoup d'électrification, vous savez, des véhicules. La vraie révolution, tant qu'à nous, c'est pas l'électrification de la mobilité, c'est la connectivité de la mobilité. pour arriver à des véhicules autonomes à terme. Pour arriver, vous savez, nos véhicules, présentement, un des plus gros défis qu'on a, c'est qu'on a plusieurs systèmes d'opération dans les véhicules. On s'en va vers un ordinateur central, un système d'opération, si vous voulez, un operating system, qui fera en sorte que tous les systèmes dans un véhicule pourront se parler. On parle de carnet aussi, la connectivité, de pouvoir arriver à savoir où est notre véhicule, tout ce qui se passe avec notre véhicule, d'avoir beaucoup de data par rapport à tout ça. Donc, c'est vrai chez Volkswagen, c'est vrai chez certains de nos compétiteurs, et c'est vrai partout. Vous savez, aujourd'hui, on peut avoir une machine à laver qui devient de plus en plus électronique, ça prend les semi-conducteurs, les réfrigérateurs. Donc les demandes de semi-conducteurs à travers le monde pour tout l'ensemble manufacturier est colossal présentement. Donc, et en plus, on y rajoute la COVID qui nous apporte des difficultés supplémentaires. Donc oui, c'est un très gros problème. D'avoir un approvisionnement local, absolument, on voit que il y a quelques manufacturiers de semi-conducteurs qui continuent justement dans l'expansion de leurs opérations. Il y a même des gouvernements qui s'y intéressent parce qu'ils considèrent que d'un point de vue stratégique et économique pour leur société, ils se doivent d'investir dans ce genre d'entreprise. Mmh. Et effectivement, on voit bien que je crois qu'on en a encore un très long moment avant de pouvoir avoir des semi-conducteurs qui pourront rencontrer la demande. Et c'est pas juste l'automobile, encore une fois, c'est dans tout ce que l'on fait, tout ce qu'on achète aujourd'hui comme consommateur. Ouais. Donc, c'est un bouleversement total des chaînes de production à travers le monde.
C'est un problème, sauf que, et je sais pas du côté de Volkswagen, mais ce qu'on a pu constater des 6 premiers mois de 2021 jusqu'à maintenant, c'est qu'évidemment, les cours de concessionnaires sont vides. Il y a certains concessionnaires qui ont 20-25% de l'inventaire qu'ils auraient normalement. Évidemment, pour un concessionnaire, c'est le nerf de la guerre, soutenir un inventaire, ce qui impacte sur la profitabilité. Alors, lorsqu'un véhicule entre chez le concessionnaire et ressort aussitôt, il n'y a pas d'inventaire à supporter. Ça fait augmenter, évidemment, les profits d'un concessionnaire qui vont aussi vendre les véhicules à des prix plus élevés parce qu'il y a moins de marge de négociation considérant que la demande est supérieure à l'offre. Alors, au final, on constate cette année, je ne sais pas chez Volkswagen, mais chez plusieurs manufacturiers, chez plusieurs concessionnaires, que la profitabilité, malgré qu'on ait vendu beaucoup moins de véhicules, soit plus forte que par les années passées. Est-ce que vous avez l'impression que les concessionnaires pourraient vouloir changer leur stratégie en constatant qu'ils font peut-être un peu moins d'efforts, qu'ils peuvent fournir un meilleur service à leur clientèle en vendant moins de véhicules et en faisant plus de sous?
Il y a des coûts fixes sont très importants dans l'ensemble de la chaîne de distribution et ça inclut le réseau de concessionnaires.
Ouais.
Donc, les marges sont, oui, effectivement, plus intéressantes présentement. Par contre, le chiffre d'affaires n'est pas au niveau qu'on a connu au cours des dernières années. Donc, de là à dire demain matin qu'on fait beaucoup plus d'argent, c'est pas la réalité. C'est que les marges sont meilleures, oui, parce que, justement, il y a certains coûts qui apparaissent pas au bilan. Mais, en même temps, on a besoin de beaucoup plus de revenus pour arriver à passer à travers tout ça. On est encore dans un environnement encore COVID et il y a eu beaucoup de coûts à rajouter à tout ça, vous savez, pour se préparer de la COVID, pour accueillir la clientèle, la question de la sécurité. Donc en tant que tel, oui, je pense que ça nous amène à la chose suivante. C'est que ça soit dans l'automobile, évidemment, avec le réseau de concessionnaires, on a beaucoup de discussions sur quel est le modèle d'affaires du futur. Évidemment, il y a eu toute les développements du point de vue virtuel, la digitalisation, si on veut.
Ouais.
Aujourd'hui, on peut regarder les inventaires en ligne. Chez Volkswagen, même, on peut arriver à précommander un véhicule et faire beaucoup, beaucoup de choses en ligne avec les concessionnaires. Et on veut arriver à se mettre dans une position qu'au cours de la prochaine année, vous pourrez même acheter le véhicule en ligne si vous le désirez, en mettant finalement une acompte. Donc, il y a tout le développement du virtuel qui est très important aussi. Avec tout ça, il faut arriver à diminuer nos coûts. C'est sûr qu'il faut diminuer nos coûts. Et si on diminue nos coûts, vous savez, le consommateur en tirera bénéfice. Parce qu'il faut arriver à mettre une valeur ajoutée, justement, à l'expérience et au véhicule d'achat et au véhicule et l'entretien. Et tous les coûts qu'on peut arriver à sauver, oui, ça pourrait contribuer et ça va contribuer certainement à la rentabilité des opérations, ce qui est très important. On a besoin de ces entrepreneurs-là,
ouais,
partout dans le marché pour nous supporter. mais aussi aux consommateurs. Et c'est la révolution du monde du détail, dans la vente au détail, comme vous le savez. On n'est pas les premiers à subir, mais à passer à travers tout ça.
Ouais.
Et la COVID a accéléré, évidemment, énormément cet environnement-là. On sait qu'on doit arriver à changer notre modèle d'affaires. On a beaucoup de discussions avec les concessionnaires. Les gens sont conscients. Puis, on voit quand même l'avenir avec beaucoup d'optimisme.
Antoine le mentionnait, plus tôt cette semaine avait lieu le lancement du Taos. J'ai l'impression qu'on a dit à peu près tout ce qu'on pouvait dire sur ce véhicule-là déjà. Mais moi, je suis curieux de vous entendre sur le moment d'arrivée de ce véhicule-là sur notre marché, parce que c'est un segment qui s'est développé il y a quelques années déjà. Certains joueurs en sont déjà à leur renouvellement là de mi-génération. On peut penser au Kicks, par exemple, ou au Kona, qui sont des véhicules relativement concurrentiels avec le Taos. Pourquoi Volkswagen a attendu, entre guillemets, si longtemps avant de plonger?
Je pense que c'est certainement quelque chose qui va être étudié pendant plusieurs années dans l'université. On a très, très, très souvent, de façon générale, à travers le passé, on n'a pas été les innovateurs, si vous voulez. Donc, on a attendu trop longtemps. Et oui, effectivement, on a manqué la vague des VUS. Aujourd'hui, par contre, on se reprend. Non seulement on arrive avec 5 VUS, parce que vous avez l'Atlas, le Crossport, vous avez la Tiguan, évidemment. Vous avez la Taos qui arrive, qui est dans les showrooms, et on aura beaucoup plus de disponibilité à partir du mois de septembre. Et il y a évidemment les D4 que je parlais, dont lequel j'ai traité longuement au cours des dernières minutes. Donc, donc, que ce soit d'un moteur thermique ou électrique, vous l'aurez chez Volkswagen. Donc, Volkswagen, au Canada, on fait à peu près 10% de part de marché dans les véhicules passagers, qui représentent uniquement aujourd'hui 15% du marché. 85% du marché, les camionnettes et les vues. Et justement, c'est le flambeau de Volkswagen maintenant. Il faut arriver, on s'est adapté à ce que la clientèle veut au niveau canadien, au niveau québécois. Et je crois qu'avec la Taos, on aura justement une entrée très percutante. On croit qu'avec la Tiguan, ce sera probablement nos deux meilleurs vendeurs au cours des prochains mois et au cours des prochaines années. Puis je pourrais dire qu'au Québec, si on rajoute l'ID4, Volkswagen prend de l'ampleur. On va arriver à avoir une empreinte beaucoup plus importante dans le marché. Et dans le fond, pour reprendre ce qu'on utilise dans notre commercialisation, soyons le virage, Volkswagen devient un leader à bien des niveaux et on va avoir une présence beaucoup plus importante avec notre réseau de concessionnaires. Vous savez, on lance 6 nouveaux véhicules, vous parlez de la Taos, l'ID4, on aura une toute nouvelle Jetta cet automne, un tout nouveau Tiguan cet automne, et évidemment la Golf R, la Golf GTI, qui sont les véhicules cultes chez Volkswagen, qui arriveront aussi dans les showrooms de nos concessionnaires au cours des prochains mois.
En terminant, évidemment, la Golf a toujours été, comme je le disais un peu plus tôt, le cœur de la marque. C'est une voiture qui a traversé des générations, qui s'est vendue depuis 1974. Et notre cœur saigne. On lui dit adieu cette année. D'ailleurs, la maman de Germain s'est procurée à peu près une des dernières Golf qui étaient sur le marché pas plus tard qu'il y a 3 semaines.
À boîte manuelle, hein, précisons-le.
Qu'est-ce que ça vous fait à vous, chez Volkswagen Canada, d'être contraint d'abandonner ce modèle-là?
Dans un premier temps, j'insiste, la Golf ne quitte pas le Canada. La Golf TSI, le modèle TSI à moteur à combustion,
ouais,
le moteur de véhicule de base, effectivement, nous arrêtons la commercialisation parce que nous avons arrêté la fabrication en sol nord-américain. C'est important, et ça a un impact sur l'ensemble de nos stratégies. Mais pour faire une longue histoire très courte, la chose est la suivante. Les normes environnementales en Europe sont excessivement robustes. Avec la Chine, ce sont les plus robustes à travers le monde. On doit arriver à réduire la complexité et réduire l'offre des moteurs thermiques. On a des véhicules de plus en plus connectés pour arriver à rencontrer les normes en Europe, donc on doit arriver à rajouter un contenu pour d'un point de vue environnemental qui va jusqu'à 3000 euros supplémentaires. Par exemple, juste sur la Golf, il y aura certains modèles Golf, la nouvelle génération 8, qui sont 3200 à 3500 euros de plus que le véhicule qu'ils ont remplacé. uniquement pour rencontrer les règles environnementales de l'Europe. Ça veut dire quoi? Quand on a un dollar canadien qui est à 1,5 sur l'euro, avec un véhicule qui monte d'un point de vue prix de façon très importante, d'arriver à l'offrir au Canada, on serait définitivement pas compétitif. Ce serait un véhicule qui serait hors prix.
Mais il y a quand même un deuil à faire.
Il y a un deuil à court terme à faire. Ça ne veut pas dire qu'on n'y arrivera pas à moyen terme. mais en même temps, je vais vous dire la chose suivante. C'est sûr que d'un point de vue sentimental, la Golf, c'est pour tout le monde. D'ailleurs, moi, j'en ai une dans mon driveway, comme on dit. J'adore le véhicule personnellement. Mais il faut regarder où la demande est. Et au cours de la dernière année, on a vendu 5000 Golf TSI au Canada en 2019 dans une année pleine. Je crois qu'on pourra faire tout autant avec la GTI et avec la R, puisqu'on arrive, on arrive avec des nouveaux packaging.
Ouais, ça a l'air très alléchant.
Un prix très agressif aussi, vous allez voir. On va s'amuser quand même, puis les amateurs de Golf vont s'y retrouver définitivement.
Est-ce qu'on peut imaginer qu'elle aurait été vendue là, au-dessus du cap des 30 000 $ la Golf 8, si elle avait été vendue au Canada, là, si on fait les calculs grosso modo? Là?
Absolument.
Ah oui. Enfin,
c'est absolument.
On aurait été directement dans l'échelle de prix d'une GTI, finalement, mais sans avoir les performances. Là.
Exactement. Et ouais. Voyez-vous, on arrive avec un Taos à 26 000 $ qui amène quand même beaucoup plus d'espace. C'est un VUS, les gens recherchent des VUS. Mmh. Donc, d'arriver à... C'est pas qu'on pouvait pas le faire, mais économiquement parlant, et même pour la clientèle, on savait bien qu'au prix qu'on pourrait arriver à commercialiser la Golf TSI au Canada, au Québec, les gens nous auraient regardé et auraient dit « Voyons, qu'est-ce que vous faites là? Ça n'a pas de bon sens. » Mais, comme je vous dis, on a refait notre commercialisation, notre échelle de prix aussi du point de vue de la GTI. On aura trois niveaux de configuration sur la GTI. On aura beaucoup plus de ventes de GTI que par le passé. Et ça sera un modèle avec le prix puis, qu'on pourra arriver à offrir à la clientèle qui va amener beaucoup de valeur. Donc, soyez patients. Je pense que vous allez voir que Volkswagen ne quitte pas avec la Golf. Au contraire, on va continuer à garder une place importante puisque c'est bon pour notre marque. Notre clientèle nous le demande. Et en plus, c'est tellement un véhicule phénoménal. Donc, on ne veut pas le laisser aller.
Monsieur Boutin, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui et bon succès pour le futur. J'ai bien hâte, moi, de voir ça, cette nouvelle GTI-là.
Absolument.
L'ai vu en photo, mais je ne l'ai pas encore conduite.
Oui, un grand merci.
Merci, messieurs. Bon courage et bon succès de votre côté. Ça m'a fait grandement plaisir ce matin.
Merci. Au revoir.